Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kadour Ziani, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Vous mesurez 1m79. Celui qui vous croise dans la rue ne le réalise peut-être pas, mais vous êtes un des plus grands dunkers de tous les temps. Première question très simple. Si je vous dis dunk, vous pensez à quoi ?
Je pense à s'éclater, à voler, oublier tous les soucis. Le seul endroit où je me sens libre.
Il y a vraiment cette impression de liberté, ça revient beaucoup chez les dunkers. Je crois que c'est Dominique Wilkins qui disait c'est mieux que le sexe.
Ouais. Bah,
est-ce qu'il en fait trop?
Lui, je sais pas ça. Sa femme doit le prendre à partie avec cette phrase là. Mais non, c'est des sensations fortes. C'est là vraiment où c'est un moment de plénitude, un moment vraiment d'éternité, si on veut dire. Non, c'est vraiment très spécial le dunk. Hein. C'est l'éclatante au plus grand sens. Du terme pour celui qui est passionné, pour celui qui retrouve tout, parce qu'à un moment toi-même tu t'envoies en l'air, tu fais des gestes en l'air, et en plus tu plais, c'est l'art de plaire aussi, tu vois, t'as toute une audience, t'es beau gosse, et c'est la frime, tu vois, t'existes, tu forces les gens à t'aimer,
il y a un truc de séduction un peu.
Ah, pas, obligé.
Mais et il y a un côté, ce qui revient souvent aussi quand on entend parler, c'est une drogue. Une fois qu'on a commencé, on s'arrête plus.
Ah, surtout moi. Moi, quand à un moment, j'étais tellement cherché un moyen de me dire « Eh oh, je suis là, j'existe », tu vois. Parce que c'est vrai, en un moment, quand tu viens de la condition, moi, où j'ai grandi, familiale et tout ça, avec ma un peu particulière, ben, à un moment, il faut se dire dans le désert « Je suis là, coucou, faut faire un trait dans le désert ».
C'est quelque chose qui revient dans le documentaire de l'équipe réalisé par Nicolas de Virieux, on en reparlera un petit peu, mais qui s'appelle donc Dunker pour ne pas mourir. Vous parlez de voler, et quand vous parlez de voler sur les images du documentaire, on a l'impression qu'il y a un vrai double sens, c'est-à-dire voler littéralement et voler au-dessus des problèmes dont vous parliez, où vous avez grandi dans un quartier difficile. Il y a ces deux aspects-là, on dirait.
Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai, quelque part, c'est de la poésie, mais c'est vraiment existentiel. C'est un moment où ça nous permet d'exister, d'être quelqu'un, de surmonter les obstacles, parce qu'on est dans une quête de soi, une quête d'excellence, et quand on cherche à atteindre le meilleur de soi-même, ça demande beaucoup d'obstacles, et on doit surmonter tout ça et s'élever, c'est ça, c'est jumper par-dessus les obstacles, c'est quand bien même ça va pas, quand bien même c'est dur, quand bien même on est fatigué, quand bien même on a des soucis, et là le dunk nous permet de s'échapper, donc c'est vraiment un moyen de un exutoire et aussi une libération et un refuge.
Alors le premier dunk, est-ce que vous vous en souvenez et quels souvenirs vous en gardez?
Le premier dunk, il était bizarre parce que déjà j'étais venu emmerder mon pote qui s'appelle Dadou, hein, il avait des grosses lunettes à la James Worthy. Nous, il était tout le temps en train de jouer sur notre terrain de foot parce que c'était un terrain de basket qui croisait un terrain de foot. Donc nous, on n'avait pas de ballon de foot, on voulait jouer au foot et lui, il était là en train de nous narguer, en train de s'éclater à jouer et nous, on le regardait. Après, je suis allé le voir et je lui dis ouais, laisse-moi jouer avec toi. Et donc, je l'ai emmerdé un peu, j'ai accroché le cercle, je suis resté pendu et j'ai empêché ses ballons. Il me dit mais attends, mais toi, tu jumps et tout. Et donc, après, il m'a balancé il m'a dit attends, on va faire un truc, je te balance la balle et toi, tu dois la rabattre. Et c'est là que j'ai mis mon premier dunk. Mais c'est vrai qu'ensuite, après ça, je me suis mis à prendre goût. Et c'est vrai qu'après c'était le dunker addict, hein, le junkie après. C'était tous les jours là-haut, je matchais avec des cailloux, des billes, je matchais avec n'importe quoi.
Vous êtes en train de me dire que votre premier dunk c'était carrément un alley-oop?
Ouais, direct.
Ah ouais.
Non mais moi je savais même pas c'était quoi, le gars il m'envoie la balle, il me dit juste tu vois ça c'est ballon, Toi, moi je jette, toi tu attrapes, et c'était vraiment à la mode animal, quoi.
Mais alors, vous saviez déjà que vous pouviez sauter, vous aviez un
Ouais, moi
passif
je
dans le
sautais.
sport,
Ouais.
voilà, c'était
Parce
le
que comme j'étais
truc.
gardien de but, pour moi c'était comme aller faire une sortie aérienne et attraper la balle. Et sauf que là, la balle, tu devais l'acheter dans un truc, dans un trou qui s'appelait le cercle. Oh, vas-y, je jette ça là-dedans et c'est bon.
Donc sur votre premier dunk, vous n'avez pas l'étonnement de sauter haut, mais vous avez juste enfin, ce qui est déjà pas mal, hein, la sensation de claquer le dunk par contre.
Ouais, déjà là, ce qui était cool, parce que moi j'avais pas d'image reliée encore quand j'ai commencé à faire ça, c'était pour moi un geste anodin, hein, qui était pas, il y avait pas de contexte derrière. J'avais pas vu de ni Michael Jordan ni rien du tout. C'est ensuite que Dadou il nous a montré des images et tout ça, mais quand moi j'ai claqué le ballon, j'ai eu déjà une sensation de me dire waouh, c'est fort quand même. En plus je pouvais m'accrocher au cercle, donc à un moment tu veux faire le singe, et puis c'était canon quoi.
Vous avez quel âge à ce moment-là?
14 ans, un truc comme ça, ouais.
Premier
14, 15 ans.
dunk à 14-15 ans, et donc Jordan, après, vous le découvrez à quel âge, les concours et tout ça?
Après, Dadou, il commence à nous mettre il nous a mis des cassettes, pas des disquettes, il nous a mis des VHS dans la tête. Et on était piqués. Après, on était, ça y est, là, moi, j'étais tout le temps derrière, en train de sonner chez lui. Vas-y, amène-nous la cassette du match dernier. Parce que lui, il avait un pote qui avait le décodeur Canal+. Nous, on était toujours en train de les emmerder. Et c'était canon, hein.
Et alors là, ça devient une obsession à partir du moment où vous voyez les concours et tout ça.
Après, ouais. Après, une fois que t'as vu Michael Jordan, ça y est, c'est le tarte dans la gueule. Un shoot. C'était vraiment un waouh. Allez, on veut devenir comme lui. Ça y est, on sait great goals. On veut atteindre notre rêve. C'est lui, la lune, tu vois. La direction, c'est on veut être Michael Jordan.
Et donc vous vous mettez à dunker en permanence, tout le temps, sur les playgrounds. Ça, c'est vers quel âge que vous commencez comme ça à vous y mettre à fond?
16-17 ans, là ça y est, là j'ai décidé de me sacrifier. Devotion, la dévotion, toute ma concentration, tout mon temps, tous mes rêves, ma nourriture, je pensais dunk, je vivais dunk, je voulais juste m'identifier. Et en plus, quand tu vois que tu commences à grimper dans les efforts, quand tu vois que tu commences à. Ta détente, elle commence à grandir. Quand tu commences à voir comment dire, à réussir quelques dunks, tu dis, ouais, en fait, ça s'arrête pas. Après, tu prends goût, ça fait de pas à pas. Après, tu deviens dingue.
Et donc c'était combien d'heures, combien de... C'était tout le temps?
Moi, il n'y avait pas d'heure, en fait. C'était jusqu'à la mort. Tu vois, dunker jusqu'à mourir, en fait. Voilà, c'était pas pour ne pas mourir. C'était pour vraiment. Je donne tout ce que j'ai. Et à un moment, jusqu'à mes jambes, elles flanchent. Et j'avais des périostites, je me rappelle, j'avais des périostites aux deux tibias, tendinite rotulienne à un genou. Et puis,
Une
ouais,
périostite, c'est quoi exactement?
périostite, c'est décollement du muscle du tibia. T'as un petit liquide inflammatoire qui
Sympa.
passe là. C'est horrible. Et
Mais c'est que des blessures d'usure, donc c'est que vous y
ouais,
étiez tout le temps, quoi.
c'est que de l'usure. En plus, moi, j'avais pas trop l'hygiène. C'est-à-dire qu'à un moment, je savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, moi, j'apprenais avec l'expérience. Et l'expérience, elle est cruelle parce qu'elle te fait comprendre après. Donc moi je me blesse, après ah il fallait faire ça, ah, ok d'accord, ben paye.
Donc tout ce qui est étirement et tout ça, c'est ça qui arrive après,
C'est
en
ça
fait.
après, voilà. Après je me suis dit, ouais, il faut que je m'entraîne plus longtemps, plus durement. Ben, il faut maintenir, il faut nettoyer la machine et tout.
Le rythme d'entraînement, donc c'est ça, c'est hyper intense.
Ouais.
Vous séchez même les cours pour aller dunker, quoi.
Ouais, non, moi
C'est...
j'allais plus aller. À un moment à l'école, c'était dehors. C'était moi et c'était moi. J'étais devenu professeur et élève en même temps.
Parce qu'apparemment, donc même le soir, vous allumiez des feux sur le playground pour vous éclairer, quoi.
En fait, moi, j'étais tu vois, tu t'as un portable, t'as de la batterie, et moi, fallait que je vide mon chargeur, tu vois. Et tant que j'avais pas vidé mon chargeur, et voilà, j'ai dépensé toute mon. Donc des fois, ça pouvait prendre 2 heures, 3 heures. Puis des fois, j'étais dans une hystérie, tu vois, j'étais dans une boulimie, et je me dis, putain, mais en fait, aujourd'hui, je suis tellement enfermé, j'arrive pas à me fatiguer. Et j'ai engrainé mon frère, viens, viens, on va jouer. Je dis, mais ça y est, on a joué toute la journée, et maman, elle va nous tuer, c'est bon.
Ce qui
Ok.
est dingue quand même, parce que c'est quand même un geste hyper énergivore, le dunk. Pour quelqu'un, en tout cas, peut-être pas pour vous, visiblement, mais pour quelqu'un de lambda, dunker, c'est déjà un énorme effort. Donc le faire 2-3 heures, c'est énorme.
Après, j'avais une rage, je sais pas, moi j'étais révolté. Quand j'étais gamin, j'avais pas encore la science de bien m'exprimer, j'avais pas encore les mots. J'étais plus un animal. Il fallait. Donc, moi, ma meilleure façon de m'exprimer, c'était ce geste-là. J'avais envie de parfaire un geste pour me faire comprendre de tout le monde. C'était une rage que j'avais en moi. J'étais vraiment quelqu'un de révolté, mais je savais pas encore pourquoi. Il y avait plein de choses que je devais comprendre. Et donc quand j'arrive sur le terrain, j'avais tout le temps la rage déjà. J'étais quelqu'un de très nerveux et très speed. Donc voilà quoi, j'étais, il y a un moment, il fallait que je me calme.
Et c'est marrant, ça revient justement à une chose que vous disiez dans le documentaire. Vous disiez Michael Jordan avait des choses à dire. Quand vous l'avez vous dites, il
Ouais.
avait des choses à dire, je le voyais, il avait des choses à dire quand il dunkait. Et vous, c'est justement aussi pour ça, c'est parce que vous aviez des choses à dire que c'est venu et que c'est devenu un langage pour vous, quoi.
J'ai vu qu'il avait des choses à dire parce que je me suis dit c'est pas possible. Il peut pas être aussi grasse, avoir autant de grâce sans l'avoir travaillé. Pour moi, il avait tout calculé. C'est-à-dire qu'il avait tout calculé, donc il avait tout mis en scène. Donc il avait forcément plein de choses à dire pour se dire, écoutez, voilà, moi, tout ce que j'ai fait, là, vous avez la perception que je vole. Mais c'est moi qui vous ai donné la perception. Comme il dit, maybe I fly for a second, but I fly. Hein? Donc je me suis dit, ouais, lui, il a plein d'état d'âme. C'était quelqu'un sûrement d'oppressé. C'est quelqu'un qui avait vraiment envie d'être la quête du parfait, de l'excellence. Et il a dû avoir beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles. Et s'il est beau aujourd'hui, c'est parce que quelque part, avant, on l'a considéré comme quelqu'un de bizarre. Donc il a dû essayer de rectifier quelque chose. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je lui dis à un moment, quand on veut vraiment utiliser un sport, une manière, une passion pour être un langage absolu pour parler aux gens, c'est-à-dire avec le corps, parce que le corps, c'est le premier instrument de langage. Et quand on utilise notre corps pour dire tout sur nous, ça veut dire que, et en plus, quand on atteint l'excellence comme Michael Jordan l'a fait, et quand il, ça veut dire que moi, déjà, il m'a parlé dans l'absolu. Waouh! Le gars, là, il nous a tout dit.
Et alors vous, dans votre langage justement, quand vous commencez à dunker, à maîtriser différents dunks, il y avait un dunk quand vous étiez énervé, un dunk quand vous étiez content, il y en a qui
Ouais,
ressortaient comme ça.
c'est vrai, c'est bizarre comme ce que tu dis, parce que je sais plus, là on est dans le quart d'heure philosophique. J'aimais bien un gars, il disait, un philosophe, il disait, les mots ne sont pas les mêmes chez tous, mais les états de l'âme et tout ce qui lui correspond, eux, le sont. On n'a pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes, mais on a les mêmes états d'âme. Et je vois que pour moi, chaque dunk est égal à un état d'âme. Je dunkais la tristesse, je dunkais la joie, je dunkais l'énervement, l'aigreur. Mais un des dunks les plus farouches que je faisais, c'était quand je balançais les claquettes, là, et je partais de loin. Et là, excusez-moi, c'était NTM. Et je claquais le ballon et je disais NTM à tout le monde, tu vois, laissez-moi tranquille, je suis dans mon monde. Waouh, je gueulais, c'était le dunk de la rage, quoi. Et en plus, ce qui est bien dans ce dunk-là, c'est que la balle, tu peux la chercher, partir de loin, et vraiment, et après, finir comme un fou, quoi. Tu vois?
Et parce que le dunk en général, c'est quand même un geste assez agressif, c'est un geste assez
Ouais,
énergique.
c'est violent. Comme l'état de nature et l'état de rudesse et de violence. Et moi, j'avais pas refusé cet état de nature et de violence. Pour moi, il fallait l'exprimer. Et le dunk, c'était la meilleure façon de laisser cet état naturel de the animal, dunker farouchement et de, voilà, de pas, genre, ouais, le gamin, il est hyper actif. Non, non, le gamin, il a besoin d'un endroit pour exprimer son hyperactivité.
The Animal, c'est un surnom que vous reprenez, je ne l'avais pas donné, vous l'avez adopté, vous
Ouais.
l'êtes approprié.
The Animal, parce que j'aime bien Hegel aussi, qui dit que l'homme est un animal qui sait dire non. Parce que j'aime cet état de nature où on dit que la rudesse et la violence, elle fait partie de ça. Il faut juste constituer des règles pour que trouver un endroit où on puisse vraiment la codifier et puis la laisser s'exprimer. Moi, j'aime bien ce personnage animal. J'aime bien qu'on laisse les gens s'exprimer. Après, il faut les aider à trouver l'endroit et la discipline. Tu vois. Moi, j'ai trouvé ma discipline.
Alors, le dunk, on en a parlé beaucoup. Il y a le basket aussi. Est-ce que à un moment vous avez été attiré par le jeu en lui-même ou vous êtes toujours considéré comme un dunker?
Non, moi, quand je jouais au basket, c'était pour In Your Face. C'était avec ça qui m'attirait. C'est-à-dire, moi, j'ai en fait la plus grande habilité, c'est de cacher son habilité. Moi, j'étais petit, maigre. Et donc je me disais, c'est bon, personne ne m'a vu. Je suis caché derrière des dreadlocks, un short à la Raymond Coppa, des chaussettes Burlington, des Asics de basket de volley. Personne ne me voyait. Alors je me cachais, je faisais genre, je sais pas jouer.
C'est vrai qu'on rappelle, là vous êtes devant moi, je le dis à nos auditeurs qui ne vous voient pas, vous avez le crâne quasiment rasé. C'est vrai qu'à l'époque vous aviez ces grosses dreadlocks
Ouais,
qui
j'étais
étaient
atypique.
impressionnantes.
C'était ça, il fallait cacher son secret. Moi, j'avais du jump, ça se voyait pas, j'étais tout maigre.
C'était pas gênant pour dunker les locks à un moment?
Ah si, mais en même temps, si, je fouettais les gens. Genre, quand je faisais un cross, boum, le gars, il se prenait une gauche, il se prenait une trad.
Alors, je sais pas si ça vous parlera, mais vous aviez un petit air du chanteur de Rage Against the Machine avec les locks d'ailleurs à l'époque.
Wow.
Il y avait un petit côté. Il
Sûrement.
avait un peu le même look. Bon, on va faire une première petite pause dans ce parcours Kadour avec une petite pause 5 majeures. Alors d'habitude je demande toujours un 5 majeur à mes invités. Et là je vais vous demander votre 5 majeur, évidemment des meilleurs dunkers de l'histoire, selon
Ah,
vous.
des dunkers. Waouh. Alors, déjà Michael Jordan, Clyde Drexler, parce que c'était l'homme volant, celui qui planait.
C'est vrai qu'on l'oublie un peu Drexler.
Ah, mais Drexler, c'était, il pliait ses deux jambes-là, il partait pff, avec une illusion de facilité, comme s'il avait, il avait du kérosène dans les jambes. Après, c'est Spud Webb. Après, c'est la légende, parce que j'aime le côté mystique, le côté aussi légendaire, le côté on n'a pas vu, à ce qui paraît, c'est The GOAT, Herman Ego.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour
Alors, The
nos
GOAT,
auditeurs qui ne connaissent pas?
c'est une légende de New York. Alors, lui, sa légende, c'était il avait le double dunk, il avait aussi cherché des pièces en haut de la, des billets en haut de la planche. Et il avait une détente faramineuse. Et puis voilà, il a été aussi au milieu des gangs et tout ça, donc respecté. Et puis aussi une histoire un peu d'homme oppressé, un peu chaotique aussi. Et c'est aussi un peu, ça me faisait penser aussi à moi. Puis c'est une légende aussi, il y a des choses qui sont légendaires, un peu mystiques. Il y a lui, alors le quatrième, je dirais Dominic Wilkins, parce que c'est jump de pied pur. Et c'était pour moi un truc de fou. Après, le dernier, si on va en mettre un dernier, parce que j'ai aussi bien aimé, c'était Kenny Skywalker. Parce qu'il prenait la balle comme ça, et son coffre, la balle en prise de Cobra, là, quand il prend la balle dans son avant-bras et puis qu'il mouline et tout ça, là, ça m'a beaucoup inspiré aussi. J'aimais bien aussi sa façon d'écraser le cercle. C'était aussi une réponse à tous ceux qui disaient, ouais, il prend de la résine et parce qu'il a des petites mains. Non, moi après j'ai pris la balle dans ma main là et je faisais comme le serpent là. Pff, alors c'est ça ma réponse.
Spud Webb, vous l'avez mentionné, il fait. Est-ce que vous vous rappelez quel taille il fait? Je l'ai pas en tête en fait.
Ouais, il est fait 1,75 m, un
Oui,
truc
donc
comme
il est
ça.
plus petit que vous
Il est plus
encore.
petit,
Non, il est
ouais.
encore plus petit.
Et lui, c'est une légende parce que c'est lui qui a aussi montré que tout est possible, qui a montré qu'il a cassé les barrières mentales, qui a cassé aussi les idées reçues ou le fait que c'était pas peut-être pour nous. Il y a aussi lui parce que Michael Jordan, quand je l'ai vu, c'est vrai que lui, il a planté la graine de la passion. Ensuite, il a fallu une preuve comme quoi tout est possible. Et Spud Webb, c'était lui, c'était la preuve absolue comme quoi, vas-y, arrête d'être complexé. Si lui, il peut, toi-même, tu peux.
Ça fait un beau 5 majeur en tout cas, et on a plein de belles légendes. On va revenir un peu à votre parcours. Et après la découverte, après les premiers dunks, il y a la Slam Nation qui arrive. Comment ça se passe la rencontre avec Bouna N'Diaye et Jérémy Medjana? Alors, des noms que nos auditeurs connaissent parce que maintenant ce sont des agents NBA. Parce qu'apparemment, Jérémy Medjana, vous l'avez rencontré sur un terrain de basket.
Ouais,
Et ça s'était pas forcément bien passé.
pas très très bien. En fait, c'était la finale du France Basket Tour. On avait gagné le tournoi 3-3 là. C'était moi, j'avais gagné l'étape de Chalon. Donc on se retrouve au Zénith pour les 10 ans de. Non, c'était pas les 10 ans de Canal, c'était en 96. Et il y avait Karim Abdul-Jabbar, Georges Eddy. Et donc nous, on fait notre premier match et on nous prend 20-0, un truc comme ça. Et ils nous ont défoncé quoi. D'ailleurs, ils ont gagné le tournoi, le France Basket Tour, ils l'ont gagné. Et on s'est embrouillé avec lui. Moi, c'était waouh. Wow. En plus, tu sais, à l'époque, j'étais vraiment cramé. J'avais pris un flingue à grenaille avec moi.
Ah
Et
oui.
ouais, là, c'était chaud. Je commençais à vouloir sortir le flingue et tout. Et les mecs de la sécurité, ils m'ont jeté dehors. Ils m'ont dit, non, mais il faut que tu jettes ça dehors. Tu rentreras plus. Nanani. Après, bon, on s'est réconcilié. Après, je suis revenu. On a foutu ça à la poubelle. Et après, voilà que j'ai commencé à mettre quelques dunks. J'ai alpagué Georges Eddy qui traversait le terrain. Je lui dis, ouais, moi je dunk des lancers francs et tout. Il me dit, ouais, c'est ça. Il me dit, non, mais c'est vrai et tout. Et il m'a dit, ok, d'accord, bah vas-y, montre-moi. Et en plus, j'ai dunké comme Michael Jordan des lancers francs. Il a dit, waouh, il a appelé Jean-Paul Jaude. Et ils ont fait un sujet sur moi alors que c'était pas prévu. Et après, Jérémy m'a dit, ouais, écoute, il a été voir mon frère Nordine. Il a dit, j'organise les 24 heures de Orchi avec un concours de dunk. C'est toujours le. J'essaie d'amener les meilleurs de France. Et je veux que ton frère y vienne, malgré ce qui s'est passé. C'est pas grave, allez. Et voilà quoi, moi j'ai accepté. Et après, voilà quoi, on s'est réconciliés. On a décidé de créer la Slam Nation parce qu'en fait, le concours de dunk, l'édition de 97, elle a été tellement. Il y avait un plateau tellement énorme, une génération tellement fabuleuse qu'on s'est dit, ouais, on va faire un show. Et c'était là l'idée de Buna Ndiaye qui est venu accompagner Jérémy pour se dire, tiens, ben voilà, on va monter une société qui s'appelle Comsport et on va produire le show de Slam Nation. Et voilà, on a tous grandi ensemble. Donc Comsport a grandi aussi comme ça, en faisant la tournée, en produisant la tournée de Slam Nation. Et a bâti son réseau aussi. Donc c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils se sont appuyés aussi sur nous. On était aussi à la base et à l'origine de leur ascension. Donc c'était cool aussi. Et
Pour vous,
puis.
à ce moment-là, ça vous semble naturel de partir dans cette aventure-là, ou vous dites, waouh, je vais peut-être pouvoir en vivre, tiens.
Moi, au début, c'était la passion. En plus, c'était une aventure. On était dans un pari. Bon, ça, faut pas oublier, c'était un pari. Moi, c'est déjà, j'étais comme dans l'émerveillement. Et après, c'était à nous le succès. C'est à nous de le faire. Donc, c'était à nous, à nos performances, de décider du succès ou de l'échec. Donc, moi, j'étais vraiment responsabilisé. C'est pour ça que je faisais le dingue. À un moment, moi, je suis sorti du quartier. Je veux pas y retourner. Et si on doit faire une aventure de rockstar ou si on arrive à être comme les Harlem Globetrotters du dunk. Pourquoi pas les premiers Français à fouler les parquets NBA et c'est ce qu'on a fait. Donc pour moi c'était on n'a pas le choix, on va tout donner. Après le résultat il incombe au destin, mais je pense qu'on a tout donné, je pense.
C'est marrant quand on regarde les reportages un peu français de l'époque, ils vous présentaient toujours comme un show à l'américaine. Ça vous embêtait pas d'entendre ça, sachant que les Ricains ne faisaient pas ça de toute façon?
Non, mais nous, on était contents. On dit que le converti est plus royaliste que le roi. Nous, on était même plus américains qu'américains. Et même les Américains, ils nous adulaient. Donc, on était vraiment. C'était comme un pied de nez. Michael Jordan, on était devenus des Michael Jordan. On était même les héros des stars. Et c'était ça, en fait, notre valeur ajoutée. Des stars NBA, qui eux-mêmes étaient des athlètes vraiment hors normes, reconnaissaient en nous et nous donnaient l'approbation. C'est comme si on avait un label. Voilà quoi, on avait le tampon appellation d'origine contrôlée, jumper accrédité. Et quand tu vois Michael Jordan, Vince Carter, Dominique Wilkins te donner un tampon, tu vois, comme je disais, un doctorat, ça c'est gratifiant et c'est inversé, tu vois, c'est renverser les rôles un peu, tu vois. C'est on a rêvé de l'Amérique, maintenant l'Amérique rêve de nous. Pourquoi être complexé? Et puis c'est une invitation aussi à tous ceux qui ont rêvé et qui, à leur tour, doivent faire rêver.
Parce que Vince Carter, c'était en 2004, hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Et alors, ça se passe comment? On a vu les images
Ouais.
circulent, il est sur le bord du terrain. Au début, il est un peu perplexe, et puis il se laisse aller au fur et à
C'est
mesure.
ça.
Vous avez pu lui parler un petit peu quand même en dehors, ou c'était
Ouais,
vraiment
non,
juste?
non, non, il était accessible. C'est quelqu'un de vraiment. Et puis, voilà, en défense, tu vois, on a peur parce qu'on se fait des images. C'est quand même Vince Carter, tu vois, waouh, avec tout ce qui se dit autour de lui, avec tout ce qu'il a fait, c'est un mythe, tu vois. Alors, donc tu te dis, waouh, déjà, il y a une distance. Après, pour réduire la distance, il faut mériter aussi. Et ensuite, quand tu te rapproches du personnage, tu vois en fait qu'il n'y a plus de filtre avec lui. Et lui, en fait, il est normal, il est cool. Il te dit, waouh, j'ai bien apprécié. Et tu vois que c'est un cramé comme nous du dunk. Et tu dis, en fait, ouais, il est comme nous, c'est un crevard, en fait. Tu vois?
On peut situer un petit peu pour ceux qui vous ont pas forcément vu en spectacle, comment ça se passait un show de la Slam Nation? Parce que, encore une fois, maintenant il y a YouTube, on voit des images. Mais est-ce que c'était chorégraphié? Comment ça se passait? Dans quel ordre vous passiez? C'était quoi le scénario pour vous quand vous rentriez sur le terrain?
Alors aujourd'hui, quand on regarde, il y a des concours de dunk, mais c'est que de l'individualisme. On va dire, c'est le truc. Il n'y a plus de show écrit, il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus de comédie. Nous, à la base, notre succès, ça a été de faire une écriture. On s'est dit, on va scénariser un show, on va le monter, ça va monter en puissance. On avait tous des spécialités. On devait finir en apothéose, c'est-à-dire qu'on devait monter en puissance. Et on devait faire de la mise en scène, genre avec la musique, une bande son, des chorégraphies, des combinaisons à deux, des combinaisons à trois, des combinaisons à cinq, sauter par-dessus des obstacles, y aller tout doucement, et ensuite finir par chacun sa spécialité. Voilà, donc il y avait une démarche où on faisait de l'entertainment. On essayait de faire participer le public. Genre, on jump par-dessus le public, ou on prend un gamin, on le fait dunker aussi. Donc, on était dans la même logique que les Harlem. Un spectacle, de la performance, oui. Montrer aussi, prouver qu'on est les meilleurs dunkers du monde, parce que c'était, ou la meilleure troupe de dunkers au monde. Si on n'avait pas les meilleurs dunkers au monde, au moins, il fallait qu'on soit la meilleure équipe de ce spectacle de dunk. Et donc voilà, on avait beaucoup de travail. On passait des, par exemple, on a été faire une tournée pour Nike à Fréjus, et puis on a profité de faire un camp pour travailler toute notre chorégraphie qu'on allait pouvoir vendre. Donc et cette force, c'était la solidarité. C'est-à-dire qu'à un moment, chacun faisait les concours de dunk, mais on s'est dit non, on va s'unir et puis on va vraiment essayer de rassembler nos forces pour que le public puisse kiffer et pour que le dunk soit aussi un moment de joie et un spectacle. Et comme ça, on va pouvoir se produire et se vendre.
Oui, c'est un vrai show, ce que vous disiez dans la lignée des Harlem, etc. Il y a une vraie scénarisation,
C'est
quoi.
ça.
Votre dunk préféré à vous, d'ailleurs?
Moi, c'est Double Moulin et le 3-6 Cobra. 3-6 Cobra parce qu'à un moment, il y a toute la rage. Comme on voit, il y a un des dunks que j'ai mis à le 3-6 Cobra à la défense, au camp Tony Parker, où là j'ai quand même presque pété mon bras dans le cercle. J'avais une bosse à la fin, j'avais même pu à plier mes mains. En fait, quand ouais, il n'y a plus de calcul, le 3-6 Cobra, c'est un moment où tu jettes tout ce que tu as, la rage, les colères, les frustrations. C'est vraiment. Et le Double Moulin, parce que c'est une nouveauté, c'est ma marque de fabrique. Et puis voilà quoi.
Vous le disiez justement, il a fallu apprendre au tout début, quand vous étiez encore à Saint-Dizier, la rigueur physique, etc. Quand vous enchaînez les shows avec la Slam Nation, ça doit être hyper exigeant aussi. Vous faites quasiment 400 shows, je crois, au total. Comment vous gérez la vie sur la route avec la préparation physique, etc. Il y avait une routine quotidienne que vous vous imposiez. Comment ça se passait?
Alors mon avantage, c'est que quand je partais en tour, c'était vraiment enfin un moment où je pouvais faire que du dunk. C'est-à-dire que dans l'avion, je faisais du dunk, je m'étirais, je mettais mes jambes, en fait, j'en avais plus rien à foutre. Et j'étais seul au monde. Et je faisais tout pour m'étirer, préparer. C'est-à-dire que je m'allongeais par terre, ou je faisais mes étirements, ou je faisais mes. Je, voilà quoi, je faisais tous mes exercices. Et dans les hôtels, pareil. C'était tout pour le dunk. C'était bain de glace, machin, nourriture spécifique et tout ça. Donc moi, en fait, quand les voyages et tout ça, c'était les meilleurs moments, parce que là où peut-être d'autres se sentaient, ah, on va s'arrêter, on se repose et tout ça, moi j'étais à fond en fait. J'étais comme une Formule 1. Pour moi, c'était dans les stands. D'ailleurs, il y avait avant, pendant et après. Et les trois moments là, pour moi, c'était que du dunk. Donc c'était magnifique. Là, je pouvais monter en puissance. C'est pour ça que la tournée là qu'on a fait en Asie, là, aux Philippines, j'arrive à un pic de forme, parce qu'en fait, quand je m'entraînais tous les jours. Et Nicolas Deviru, qui était dans ma chambre, mais lui, il me dit, en fait, toi, tu t'arrêtes jamais, quoi.
Et justement, cette soupe, parce que vous avez une souplesse qui est incroyable, ça aussi, ça vient de ça en fait. Vous
C'est
pouvez
ça.
jamais laisser de répit à votre corps, parce que sinon.
Jamais. En fait, le corps, c'est comme un ciment. Si tu le laisses, il sèche. Il faut travailler ça, il faut mouiller, il faut mettre de l'eau, il faut s'étirer.
Mais cette souplesse-là, il y a une part d'inné ou parce
Il y
que c'est
a,
incroyable quand même.
je veux dire, en fait, il y a un moment, mon corps, ma philosophie, elle est difficile. C'était, si mon corps, il n'est pas content, il va se faire foutre. C'est-à-dire, il y a un moment, s'il ne veut pas s'étirer, je vais le casser. Et pour ça, à un moment, je me suis étiré tellement fort que j'ai pété mon aponévrose derrière la cuisse, derrière mon ischio. Et c'est vrai que j'étais vraiment fou, quoi. Et à un moment, je me suis dit, il faut que tu sois souple. S'il faut que ça craque, ça craque. Et j'allais vraiment au-delà des fois. Des fois, c'était vraiment dangereux. Alors, je conseille pas à tout le monde de faire ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que c'était vraiment. J'avais vraiment une volonté et je voulais y arriver par tous les moyens, quoi.
Les blessures, justement, il y en a eu quelques-unes costauds.
Ouais, ben celle-là, de la ponévrose là que j'ai faite à Bercy, j'ai fait un grand écart à froid et ça a craqué, quoi. Et ensuite, ben, beaucoup de luxation, luxation d'épaule. Je dunkais dans la pluie. Je me suis retourné comme en arrière, un peu comme le Ronaldo de ciseaux, le ciseau de Ronaldo
Ouais.
là. À 3 mètres, et là je retombe et mon bras en opposition. Ouais. Beaucoup de déchirures, surtout les os, les doigts ont morflé. Après, c'est des périostite, tendinite, tout ce qui se finit en it, c'est bon, j'ai tout eu.
Oui, parce que, encore une fois, je reviens à ce documentaire de l'équipe, mais il y avait ces images incroyables où vous êtes, c'est aux Philippines, si je
Ouais,
dis pas de
Philippines,
bêtises, où
ouais.
vous avez le doigt ouvert,
Ouais.
vous êtes assis, et c'est pour ça que moi je parlais de la souplesse, c'est que vous êtes allongé dans le lit d'hôpital, enfin sur la civière, il y a un mec qui vous recoule le doigt, et en même temps, vous avez une jambe qui est quasiment au niveau de votre oreille en train de vous étirer, et en train de dire, bon, il faut recoudre parce que moi j'y retourne. Et alors en plus, vous dites, moi je veux pas la piqûre. Alors c'était parce que vous vouliez pas que le doigt soit anesthésié, ou c'est parce que vous avez peur des aiguilles?
Non, enfin, les deux. Déjà, pas anesthésié parce que je veux pas mourir. Pas mourir, ça veut dire je veux pas qu'on me dise c'est cassé et c'est mort. Tu vois, c'est mort, tu retourneras pas. Donc, moi, je veux déjà sentir. La douleur, c'est un message. Les blessures, pour moi, ça a été mes éducateurs de substitution. Elles m'ont alerté, elles m'ont donné, bah, tu vois, ta limite, Kadour, c'est là. Et après, ça pète. Donc, à chaque coup, je l'ai repoussé. Tu vois, et c'est pour moi des marqueurs essentiels. La douleur, c'est vraiment une école pour moi. Et donc là, je me suis dit, si j'ai plus la douleur, je suis dans l'invisible. Je sais même pas si c'est cassé, s'il y a un truc bizarre. Donc moi, non, je préfère avoir mal, sentir, plutôt que dire, ouais, c'est mort. Donc, et aussi la piqûre, je déteste. Alors quand je l'ai vu me charcuter, je lui dis, pour moi, c'est pas une piqûre. Parce que je pense qu'au dunk, là, je m'en fous, vas-y, fais ce que tu as à faire. Mais j'étais en train d'agoniser, tu vois.
Mais on voit qu'ils sont tous, ils ont tous un sourire, même le médecin,
Ouais, ils n'ont pas compris.
il a
J'ai dit, mais
l'air,
attends.
voilà, Jérémy Medjana qui fait la traduction, et il rigole aussi à moitié quand il leur explique que vous voulez pas de piqûre et que vous voulez retourner dunker. Enfin, on sent que ça, c'est une situation qui est quand même incroyable, quoi, sur le coup.
Moi, dans ma tête, c'était quoi? Vite, fais ce que t'as à faire et laisse-moi partir, tu vois. Arrête de me saouler, pique, vas-y, dépêche-toi. C'est comme si j'étais déjà anesthésié. Moi, la passion, elle m'a anesthésié. Et lui, il me remet une piqûre. Je dis, vas-y, vas-y, opère, vas-y, je suis bien là.
Et puis on voit en plus que c'est le lendemain ou le surlendemain, il y a vos collègues qui vous font une sorte d'attelle de fortune en acier. Enfin, c'est vraiment à tout prix, quoi. La Slam Nation, on en parle justement en filigrane depuis tout à l'heure, c'était aussi les voyages. Vous avez fait 27 pays. On va pas tous les nommer, mais vous avez fait quasiment tous les continents. Vous avez été un peu partout. C'est incroyablement enrichissant, évidemment, de voyager. Quel souvenir vous gardez le plus fort dans tout cela?
Ben, le souvenir, il est un peu général. Les derniers souvenirs, c'est toujours les meilleurs, on va dire, parce que ils sont frais et on ne peut pas choisir entre toujours mettre en analogie un souvenir plutôt qu'un autre. Je pense que c'est l'ensemble de tout qui fait que. Et puis, il faut toujours rester sur le dernier voyage. Pour l'instant, c'est le dernier voyage que j'ai fait, c'est à Mayotte. Peut-être j'ai pas dunké, mais j'ai produit le All-Star Game. Et il y avait Guy Dupuis qui était de retour en France, en métropole, mais qui revenait dunker comme le meilleur en tant que meilleur dunker du monde. C'était comme si moi j'étais en train de dunker par procuration. Donc ouais, il y a eu tellement de voyages, tellement de pays, tellement de c'est la richesse quoi. C'est une éducation, c'est beaucoup de choses. C'est aussi apprendre la tolérance. C'est aussi faire preuve de. Aussi, c'est un moyen de grandir parce que tout ce qui est étrange ou étrangeté ou étranger ou différent ou pas comme toi, c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle façon aussi peut-être de grandir. Donc moi, j'étais trop curieux. Je me dis, attends, si je mange, je sais pas moi, un riz spécial en Afrique, peut-être je vais avoir du jump. Peut-être si je mange du poisson en Chine, ça va peut-être m'aider. Donc moi, les Chinois, oui, j'étais venu pour les vampiriser, pour voler tout leur savoir, tu vois. Et parce que peut-être que chez eux, il y avait un secret du jump que, donc, à un moment, l'humilité, c'est aussi penser aussi à une forme de penser à moi aussi. Hein. Donc, s'intéresser à tout ce qui est différent, c'était aussi devenir riche soi-même. Pour
Ça
moi,
change la perspective qu'on a sur le
ça
monde.
change de ouf. Parce qu'en fait, moi, j'étais toujours dans la notion de il faut que tu grandisses, il faut que tu améliores ton jump. Toujours à devenir quelqu'un de meilleur. Peut-être que, voilà quoi, pour moi, le monde entier, c'était comme un buffet, tu vois. Et à un moment, je ne peux pas manger qu'un seul truc. Il faut que je mange un peu de tout. Et ensuite, peut-être que si j'arrive à goûter un petit peu à tout, peut-être là, j'aurais vraiment utilisé tous les moyens pour au moins, je pourrais pas avoir de regrets, mais enfin, j'ai tout testé. Là, c'est bon, je suis au taquet, je peux plus progresser.
Au niveau des ambiances, les tournées en Asie, ça avait quand même l'air d'être quelque chose, non?
Ouais, l'Asie, on était comme des rockstars. Moi, je me suis dit, voilà, non, c'est abusé, là. C'est. À la limite idolâtrie. Enfin, les mecs, ils avaient besoin de voir. Ils étaient enfin comme soulagés que voir quelqu'un qui ressemble un peu à eux, en fait. Moi, j'étais tout maigre, un peu en mode Bruce Lee. Et j'ai en fait, ouais, il est comme nous, lui, en fait. Et pourquoi il fait ça et pourquoi pas nous? Donc, en plus, pour eux, ils ont la culture du corps. On l'oublie pas, ils ont la médecine, ils ont les arts martiaux. Donc, moi, je leur ai parlé tout de suite. Mon corps, il leur a tout dit. Et eux, je pense que c'est un endroit aussi pour avoir la reconnaissance. Parce que j'ai vu leur respect qui me témoignait et tout ça. Je dis, ouais, c'est bon. C'est comme si j'avais ceinture noire de dunk, tu vois. J'étais là-bas, j'étais un maître du dunk. Et je me dis, ouais, c'est. D'ailleurs, c'est là-haut aussi que ça m'a beaucoup inspiré, l'histoire du Jeet Kune Do et de Bruce Lee. J'ai un peu le même, on va dire, parcours, exilé. Là, c'est comme si je retournais chez moi, dans le pays, là où on traite le corps, on le voit comme un instrument de langage, où il y a une science autour du corps, du savoir dire non, de contrôler ses émotions, de chercher l'harmonie, à chercher le méridien en nous, là, le tai chi et tout, etc. Tout ça, c'était des chemins dans lesquels j'avais aussi exploré. Donc là-bas, j'étais comme chez moi, en fait.
Autre ambiance, les salles US, puisque vous l'avez un peu dit tout à l'heure, vous êtes allé sur les parquets NBA, Chicago en 99, un an après la retraite de Michael Jordan, vous avez fait d'autres salles, hein, c'était une tournée. Mais j'ai lu, notamment dans une interview à Rivers, vous disiez que c'était pas si exceptionnel que ça, qu'il y avait un petit côté frustrant d'être à la mi-temps aux États-Unis.
Ouais, pas mal. C'est comme dans les studios de, je sais pas, dans les télé, Canal, Bing ou tous ces trucs. À un moment, t'es poussé au résumé, t'es poussé parce qu'il n'y a pas que toi, t'es poussé parce que t'es pas le main event, t'es poussé parce que toi, tu dois donner, et puis après, voilà, tu te tires, quoi, tu fais ton truc, t'es chronométré, tout ça. Donc, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut être fort, il faut être. Tout de suite, on te donne pas de chance de rater. Il faut impressionner tout de suite. Donc la configuration, c'est gladiateur, tu vois, c'est dunk or die, c'est tu vis ou tu meurs. Et donc il y avait un côté frustrant, mais l'expérience était fabuleuse parce que même si t'étais jeté comme un gladiateur, c'était à toi de sur la base de ton talent de faire ce qu'il faut, quoi. Donc là-bas, c'est sans pitié.
Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de choses semblables à Slam Nation. Est-ce que YouTube aussi a un peu dilué les faits? C'est-à-dire que maintenant, le gamin qui veut voir des dunks, bon, bah, en trois clics, il voit des mecs qui font des trucs incroyables.
C'est ça.
Et il n'y a plus cet effet incroyable de découvrir, alors que ce soit à petite dose à la télé ou en vrai, est-ce que ça a un peu tué quand même cet effet incroyable du dunk?
Non, ça n'a pas tué l'effet incroyable du dunk, mais ça a plutôt, avec le démantèlement des médias, YouTube et tout ça, tout le monde se met en scène, tout le monde développe son image, tout le monde capitalise sur son nom, tout le monde se met en mode de beau gosse, rockstar, machin, j'ai ma petite chaîne, j'ai mes amis, j'ai mon audience. Et tout le monde essaie d'être beau gosse. Donc tout le monde a son public. Et ça, c'est bien. Ça a développé les performances aussi. Maintenant, les dunkers sont de plus en plus athlétiques. Avant, on commençait par le basket. Maintenant, on commence directement par le dunk. Donc, par contre, c'est vrai qu'on n'a que des concours de dunk. Il n'y a plus de show. Il n'y a plus de spectacle. Il n'y a plus de comédie. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de. Voilà, c'est toi contre moi. C'est l'analogie. C'est le fight. C'est les battles. C'est le clash. À un moment, ça saoule. C'est vrai qu'à un moment, moi, j'aurais aimé qu'il y ait une équipe qui réunisse les meilleurs du moment pour leur faire peut-être la promotion de notre discipline, parce qu'à un moment, notre discipline, elle va devoir évoluer, et c'est ce qu'elle est en train de faire, pour qu'elle devienne un sport codifié, avec des vrais juges professionnels, et puis peut-être une discipline olympique. Donc ça, c'est mon great goals maintenant, c'est mon grand rêve. Et j'y travaille, mais c'est clair que je pense que les médias ont aidé le dunk à se populariser, à se développer, mais c'est clair qu'il n'a plus de, il n'a plus de, comment dire, au niveau du spectacle et tout ça, on n'a plus ça, on n'a plus ce.
On va faire un autre petit break cadeau, et là je vous propose de rentrer dans la quatrième dimension. Alors, c'est un petit peu spécial, c'est très simple, on arrive dans un monde où il n'y a pas de dunk, il n'y a pas de basket.
Ah, ça va être triste.
Qu'est-ce que vous faites de votre vie?
Ah, là, je crois que ça va être très, très, dé très, dé très délicat. Non, je pense que le dunk, c'est un moyen. Maintenant, une fois que j'ai goûté à ça, ça m'a épanoui, j'ai atteint une maturité. Ce n'était juste qu'un moyen. Maintenant, la finalité, c'est d'être qui je suis. Peut-être que je fabriquerai des paniers là-bas dans ce monde pour leur dire. Vous savez, il était une fois, un jour. Il y avait des paniers de basket et on s'amusait à sauter et à jeter la balle dans un trou. Ça peut paraître stupide, mais ça peut faire son truc.
Parce qu'en matière de quatrième dimension, vous auriez aussi pu être footballeur.
Ouais, j'aurais tellement. Tu sais, quand tu pars en quête de plénitude, où tu essaies de connaître ton corps, tu as 360 articulations en toi, tu leur donnes chacun un nom pour qu'ensuite elles t'obéissent pour faire n'importe quoi, genre un ciseau à la Ronaldo ou un dunk 360, machin. Après, tu peux tout faire après. C'est comme je sais pas moi, t'es comme Pinocchio, Geppetto, le gars, tu deviens celui qui maîtrise le pantin là. Après, tu peux lui faire faire tout. Donc moi, j'étais comme un gamin. Je me suis dit, waouh, j'ai trouvé un jeu là, c'est mon corps. Maintenant, moi, je suis un peu, entre guillemets, maître de tout ça là. Maintenant, je peux lui faire faire quoi? Alors, tu veux qu'on fasse du saut en hauteur? Ok, on va faire du saut en hauteur. Bon, j'ai sauté 2,18 m. Après, je faisais du foot. Hop, j'ai joué jusqu'en D2. Donc après, mais c'est comme la porte ouverte à un embarras. Donc, j'invite tout le monde à connaître son corps, à vraiment à le manier. C'est vrai que c'est difficile, délicat et tout ça, mais à un moment, après, ça t'offre tellement de perspectives, parce que le monde, il est tellement fabuleux, le monde, il est à nous. Et pour moi, là, c'est ça, j'aurais bien aimé que tout le monde rentre dans cette dimension-là.
C'est vrai qu'on sent que ça a été le dunk, ça a plus été un moyen d'apprendre à vous connaître, à vous
Ouais.
entendre, et ensuite de pouvoir vous épanouir.
Après, tu t'amuses après.
Et alors pour revenir sur l'épisode foot, donc vous avez joué en D2, vous l'avez mentionné,
Ouais.
c'était au Portugal, c'était à quelle époque?
C'était au 2000, c'était entre 2006, 2007, un truc comme ça, enfin, ou plus avant. J'avais mis entre guillemets la Slam Nation et tout ça. J'ai joué en l'étape, 2 ans national, 2 ans en CFA, et après je me suis barré à la trêve. Et là, je suis parti à Penafiel. Penafiel, c'est une banlieue de Porto. Et puis c'était une bonne aventure, mais après, bon, il y a eu des galères de salaire, des trucs comme ça. J'ai dit, vas-y, c'est bon, j'arrête moi. Moi, tout ce qui est financier, tout ça, là, c'est pas mon truc.
Mais vous avez rejoué il n'y a pas si longtemps que ça à
Ouais,
Saint-Dizier. J'ai vu les images, c'était il y a quoi, 2-3 ans, non?
là, je jouais même cette année, j'ai
D'accord.
fait encore 2-3 matchs et tout ça. Mais dans un petit club, dans mon club de quartier et tout. Et j'ai joué là, on a fait une belle épopée, on a été 8e tour de Coupe de France et tout. Donc c'était nickel, hein.
On précise, je ne sais plus si on l'a dit, vous êtes gardien de but, hein.
Gardien de but,
Donc pour aller chercher les lucarnes, normalement, il y a le jump, quoi. Vous êtes...
ouais. Là, j'attendais que les gars ils frappaient. Ouais, je le numéro 9 là. Tu frappes ou tu frappes pas?
C'est vrai que la transversale, elle est pas si haute au final pour vous là.
Sais, à l'échauffement, les gars d'échauffement, ils étaient ouf. Je mettais des coups de savate dans la barre et je disais, mais attends, mais c'est quoi ce gardien? Il veut péter la barre là.
Et plus jeune, j'ai lu aussi que vous aviez eu des touches avec Nancy.
Ouais, mais j'ai foiré parce que Zavarov, il m'avait entretenu, Sacha Zavarov, qui était un des joueurs de la Juve et tout ça, qui entraînait entraîneur-joueur à Saint-Dizier, en CFA. Donc j'ai joué avec lui en CFA à Saint-Dizier. Il m'avait fait obtenir un essai. Et puis, donc je suis parti à Nancy et la veille, je me suis battu, je me suis pété le bras, fracture du poignet. C'était encore un signe du destin, comme quoi la colère, elle m'a fait encore jouer des tours. C'est vrai que, après, voilà, j'ai eu des regrets sur le moment, mais après, je me suis dit, bon, ben, vu tout ce que j'ai fait après avec Slam Nation, avec le dunk et tout ça, je me dis, voilà. Et peut-être que j'aurais été corrompu par l'argent facile du sport, parce que Zavarov, il me prédisait une grande carrière. Et il me disait. Après, il disait, de toute façon, lui, Kadour, c'est quelqu'un qui suit son cœur. Et des fois, je me barrais du foot pour aller faire les championnats de France d'athlétisme. Ben, un jour, samedi, on avait un match dimanche, je me barre le samedi, je vais à Nogent-sur-Oise. Et c'était les championnats de France indoor, National 2, et je suis champion. Je saute 2,18 m. Le lendemain, je suis dans le journal, ils savaient même pas qu'ils ouvrent le journal. Ouais, Kadour, ah ben, t'es champion de France, qu'est-ce que tu foutais là-haut? C'était dingue.
Et l'athlétisme, c'était quoi, période lycée que ça a commencé
Ouais,
ou...
UNSS. UNSS, ça a fait beaucoup pour moi. D'ailleurs, là, je suis en train d'essayer de redonner ce que UNSS m'a donné. Parce que quand tu es à l'école et on te fait participer tout de suite à des compétitions où tu peux être déjà champion de Haute-Marne, champion de tu vois, champion de ta ville, champion de ton département. Et c'est déjà. En même temps, ça peut te permettre de te sauver de l'école le mercredi. Donc, encore une excuse pour te tirer de l'école.
On va revenir un petit peu à ce que vous faites en ce moment. Vous avez 44 ans. Déjà, je suis obligé de vous le demander, est-ce que vous dunkez encore?
Ouais. Bah, obligé, j'ai. Bah, le dernier dunk que j'ai mis, c'était l'année dernière. Bon, l'année dernière, là, c'est pas si loin. Hein. Ça fait 6 mois. Mais je sais que j'ai ça en moi. Peut-être pas encore pour longtemps. Mais juste, j'ai plus envie trop de dunker. Hein. Maintenant, je veux vraiment, vraiment partager, transmettre. C'est devenu une obsession. Et la même obsession que j'ai toujours eue, une rigueur et que c'est. Un truc qui est plus fort que moi, hein. Je veux vraiment redonner, redonner
Alors
pour ne pas mourir.
voilà, alors justement, la notion de transmission, c'est vrai que ça permet en effet de ne pas mourir d'une
Voilà.
certaine manière. Donc ça se passe par des camps,
Par des
notamment.
camps, voilà. Donc j'ai organisé des camps de dunk ouverts à tous, hein, pas que des élites du dunk, des débutants ou même des mecs qui allaient découvrir le dunk. Et aussi des camps pour des célébrités. Des camps pour des sportifs accomplis. Donc on va y faire toutes sortes de prototypes, un peu, enfin de stéréo, de comment dire, de
De profil, ouais.
socio-style. Plusieurs personnes, plusieurs catégories de personnes. Niveau aussi financier, des gens qui ont de l'argent, qui n'en ont pas. Et puis essayer de donner goût au sport, le corps, quoi. Qu'ils connaissent un peu leur corps. Je pense que si on arrive à connaître notre corps, on peut maîtriser nos émotions, déjà.
Et alors, il y a les camps, il y a aussi l'organisation d'événements, vous y avez un peu parlé tout à l'heure.
Organisation d'événements. Donc déjà, alors ce qui est bien, c'est qu'avec, si on prend les choses dans l'ordre, si, ma première idée, c'est d'utiliser mon histoire pour véhiculer les principes qui m'ont conduit à ce que j'ai réussi à faire avec moi. C'est-à-dire dresser cet animal qui n'était pas difficile à dresser, qui n'était pas facile à dresser. Et puis, donc, utiliser cette histoire. Par exemple, là, on fait des projections du documentaire, là, Dunker pour ne pas mourir. Et ensuite, on fait des échanges, débats. Donc, j'ai commencé à faire ça dans des écoles, CE2, CM1. Là, demain, je fais ça à Aulnay-sous-Bois avec 200 élèves de terminale et de 6e. Et ben, je vais faire ça aussi avec UFOLEP, UNSS et d'autres. Donc, que ce soit institutionnel, administration, éducation, prison, MJC. Au maximum, je vais essayer que cette histoire, elle puisse servir. Parce que moi, maintenant, j'ai envie de. Moi qui me. Qui me, qui me Comment, maintenant qu'il a été servi, j'ai envie de servir. Et puis je pense que c'est tout aussi gratifiant d'essayer de redescendre de l'élitisme ou de l'excellence dans laquelle j'ai été pour essayer de transmettre. Parce que c'est pour moi, transmettre, c'est compléter la joie. Parce que j'ai kiffé, c'est bien, mais si je kiffe tout seul, il y a un moment, ça le fait pas, quoi. Je ne serai pas complètement heureux, on va dire.
Et alors, un autre truc qui se rajoute à votre agenda, donc qui est déjà épais, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, ce serait l'idée de faire du dunk un sport olympique.
C'est ça.
Et là-dessus, vous avez déjà des contacts, ça travaille, comment ça se passe?
Alors, from the street to the Olympic, le 3-3 a fait ce travail-là, la FIBA a fait ce travail-là avec le 3-3, enlever le côté street et le ramener jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc ça commence par recodifier le 3-3, etc. C'est la même chose qu'on voudrait faire avec le dunk. Donc je suis déjà en train de discuter avec la FIBA pour essayer de. Mais là, pour l'instant, jusqu'à 2019, ils sont dans leur logique du 3-3 aux Jeux Olympiques, parce qu'il est déjà intronisé aux Jeux Olympiques, le 3-3. Et on va tout doucement travailler, comme on l'a dit tout à l'heure, codifier le dunk avec un vrai dunking scoring system, avec des vrais juges, avec des vraies compétitions, avec un vrai moyen de faire un vrai écrémage, de donner un vrai titre qui soit champion du monde et mérité. Et qui voilà, donc là on est en train de faire un travail, on est dans les discussions, et donc voilà, c'est hors toute fédé, je le fais moi avec mon à titre personnel, mais je pense que les années prochaines ou les mois qui vont suivre, ben je pense que je vais sûrement m'impliquer de plus en plus, pourquoi pas introniser une fédé que ce soit, peut-être FIBA ou j'en sais rien, mais en tout cas essayer d'être un conseiller pour ces gens-là.
C'est le plus dur, le côté note, de définir le cadre, c'est ça vraiment l'enjeu
Ouais, mais
principal?
j'ai déjà bossé dessus. J'ai déjà, tu vois, c'est les 10 dernières années là. Vu que j'ai pris un peu de recul, je suis resté à Saint-Dizier, m'occuper de mes parents et tout ça. Donc j'ai pu travailler là-dessus avec un vrai. Parce que tu sais, c'est pas évident de codifier, mais tout le monde l'a fait. Patinage artistique l'ont fait. La boxe l'a fait. Y a le plongeon l'a fait. Donc ce qui est subjectif, c'est une valeur ajoutée. Elle peut être mesurée. Mais c'est pas que là, il y a la créativité, niveau difficulté, le battle aussi, l'échange, la réponse. Voilà, toi tu fais 360, moi je te réponds, je fais 360 par-dessus, j'ajoute un gimmick, j'ajoute un truc. Donc tout ça, moi j'ai déjà travaillé sur un scoring système que j'ai déjà proposé. Donc on va y, on a on, le calendrier n'est pas encore le bon, ça va venir, mais déjà les choses sont posées sur la table déjà. Là, on peut déjà espérer que ça va venir tout naturellement, on va dire.
C'est vrai que ça peut, enfin, ça peut être hyper intéressant même pour le CIO. C'est vrai que ce serait une discipline hyper spectaculaire qui attirerait des téléspectateurs en l'occurrence.
Alors tout le monde dit tout de suite, ouais, pourquoi le twirling bâton il est aux Jeux Olympiques et pourquoi pas le dunk il est. Parce que les meufs ne dunk pas, les femmes ne dunk pas, donc j'invite toutes les meufs à se mettre au dunk. Donc voilà, je vais émanciper les femmes. Donc, d'un cordail, les filles, si vous avez envie de faire des 360, n'hésitez pas. Et pour ça, peut-être baisser les paniers, trouver une petite balle un peu, recodifier les choses. Le FIBA est ouvert à ça.
J'ai vu que vous bossiez sur un ballon qui serait destiné au dunker.
C'est ça,
Et alors, c'est quoi la particularité?
en fait, ça serait plus petit qu'on puisse l'accrocher dans la main. Ben, il existe déjà, ils l'ont fait, hein, ce ballon-là, il convient bien. Hein. Ils ont gardé le même poids, sauf qu'ils l'ont mis plus petit. Donc là, au niveau du. Peut-être pour, c'est plus pour les femmes, je pense, qu'on devrait réfléchir à baisser les cercles. Et par contre, parce que l'argument pour que le dunk soit aux Jeux Olympiques, ce qui gêne encore, le frein qu'il y a encore, c'est voilà, c'est que les femmes ne
Ah,
peuvent
faudrait que ce soit
pas,
mixte.
voilà, que ce soit mixte.
D'accord.
Voilà, donc c'est juste le seul bémol. Donc il faudrait travailler, je ne sais pas, à réfléchir, baisser les cercles, si ça intéresse, parce que peut-être que les femmes n'en a pas envie.
Oh, tout le monde aime dunker. Moi,
Ouais,
je...
je pense. Non, mais là, je les taquine exprès pour dire, voilà quoi. Si vous aimez pas le dunk, ben tant pis pour vous.
Une petite note plus perso pour on s'approche de la fin de cette interview. Cador, vous êtes toujours à Saint-Dizier. Est-ce que c'est important pour vous de rester proche de vos racines? Parce que vous avez dû avoir des offres, non, quand même, d'Américains ou autre chose comme ça, même dans un rôle de consultant, de spectacle, autre chose comme ça.
Pour l'instant, j'ai fait ce que j'avais à faire à Saint-Dizier et je vais continuer à faire des choses parce que on s'éloigne jamais de ses racines parce qu'on perd sa place dans le monde. Mais vous savez, moi, Saint-Dizier, c'est comme une piste d'atterrissage, une piste de décollage. Et je suis jamais vraiment parti. D'ailleurs, moi, ma vie est faite pour voler, décoller, atterrir. Et j'ai décidé aussi de m'installer à Nancy, donc j'ai fait une demande pour retourner à Nancy, parce que Nancy c'est aussi un endroit où j'ai vécu pendant 10 ans, et il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Donc peu importe que je sois à Saint-Dizier ou à Nancy, je pense que le plus important c'est de rester pas loin des siens, faire profiter aussi de tout ce qu'on a fait chez soi, et aussi pour faire profiter à tout le monde. Et je pense que maintenant avec la modernité, c'est facile de voyager, c'est facile de partager. Les médias nous facilitent beaucoup. Donc, moi, merci. D'ailleurs, j'en place une. Hein. Merci à Basket USA pour m'avoir invité. C'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé. Hein.
Ah ben c'est avec plaisir, c'est le but de l'émission, donc on est content que vous soyez heureux d'être là. Et justement, partagez, et on va finir là-dessus, justement, partagez, vous allez le faire avec le documentaire, on l'a dit. Il y a une version courte, alors courte, 31 minutes,
C'est ça.
sur l'équipe Explore, qui est toujours disponible, hein, et il y a une version plus longue qui va arriver. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se prépare?
Alors la version longue, elle va être très riche parce que vous dites-vous bien que Nicolas de Virieu n'a pas dit son dernier mot, il a gardé beaucoup de choses sous la semelle. Il y a encore beaucoup de détente chez Nicolas de Virieu. Et on a d'ailleurs plein de secrets, plein de choses qu'on n'a pas montrées. Hein. Des interviews, Georges Eddy, Vince Carter, je dis juste ces deux mots-là, c'est déjà beaucoup. Hein.
C'est déjà des belles références.
Déjà, voilà. Donc là, on garde sous la semelle, mais on lâche quelques trucs. Donc petite info en exclusivité chez vous. Et Zavarov, une troisième, voilà un petit cadeau. Et puis voilà, il y a beaucoup de gens qui vont nous aider aussi, des membres d'honneur, des membres bienfaiteurs, comme des joueurs de basket qu'on a invités à financer la version longue, parce que la version longue, elle va être vraiment cinéma, visée pour. Avec des grandes ambitions, gagner des festivals, festivals, ou je sais plus, on dit festival.
Toujours un trou là-dessus.
Festival,
Je peux pas
festival,
vous dire une
mais c'est
bêtise.
bien. Et donc, on va essayer de gagner, essayer d'aller jusqu'à Cannes. Peut-être je vais marcher les. Tu vois,
Ah bah bon, vous le souhaitez, une petite montée des marches.
c'est pas du cinéma ma vie, hein. Mais bon, Nicolas Durieux, il a décidé de me mettre jusqu'à Cannes. Si je montre, si j'arrive à être récompensé, ça serait terrible. Mais en fait, le but c'est pas ça. Le but c'est de faire, c'est de vraiment de partager ça et de donner des leçons, enfin des leçons et donner, comment dire,
C'est de l'inspiration.
inspiration. Voilà, pas donner de leçons, surtout pas. Mais essayer de, au maximum, que les jeunes puissent être au moins conscients que tout est possible, qu'il n'y a plus d'excuses. Désolé, mais à cause de moi, c'est l'abolition des excuses. Et voilà quoi, vous êtes dans la merde. Maintenant, sachez que vous pouvez toucher le panier avec votre pied, même si vous faites 1,80 m. Pardon. Voilà, je suis le briseur de coquilles, Calimero, tous les Calimero, je vous dis désolé.
Bon, en tout cas, est-ce que vous nous avez dit la date? Je suis désolé.
Non,
Voilà.
on a encore un an, on va travailler un an dessus.
D'accord. Bon, en tout cas, on suivra ça évidemment de manière très attentive. Et on vous remercie énormément, Kadour Ziani, d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. On a parlé d'énormément de choses. Et on vous souhaite tout le meilleur. On va remercier aussi nos auditeurs d'avoir suivi 48. On vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee. Il n'y a pas de pub dans le podcast. Il reste gratuit. Et on remercie justement ceux qui nous aident sur Tipeee. Alors, j'ai une petite liste cette semaine. On a Ben, Antoine, Mister Burp, Raph, Loïc M. Je suis désolé, les gars, j'ai la crève aujourd'hui. Hachoum, Coro Couples, Eric, en plus d'Hachoum,
Voilà.
François Bilgen, Damochou, Polo 46, Doud, Jonathan, Arnaud, Antonin, Martin Bribard, Maxence Lefebvre, Nicolas Grand, Thibault, Grégoire Labergerie, Florence Warren, Hachoum encore, ben je l'avais mis deux fois, Joël Touchard, Basket Europe, Julien FDM, Docteur R et LOL Stax. Voilà, j'ai fait tous les remerciements, j'avais un peu de retard sur les épisodes précédents. Merci encore, Kadour Ziani.
Ouais, pas de souci.
Et
Merci
on y
à
va.
vous.
Merci à vous encore une fois et on va se quitter avec quelques notes de musique et on vous dit à très bientôt dans 48. Ciao, ciao.
I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.